Radio de la Paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Jean-Mélène Betty.
Bonsoir à toutes et à tous au sommaire de cette édition. Le Premier ministre Robert Begrumombe a visité ce jour le chantier du quatrième pont. Objectif, s'assurer de l'état d'avancement de cette infrastructure routière. Le maire de la commune de Mans a présidé son premier conseil municipal après sa réélection. Les axes prioritaires de sa gouvernance ont été présentés. Les détails dans ce 18h. Et puis hors de nos frontières, le Maroc a regretté ce jeudi l'inaction de la communauté internationale face à l'aggravation de la situation humanitaire à Gaza, pilonnée sans répit par Israël. Voici pour l'essentiel. Comme annoncé dans les titres, projet de transport urbain d'Abidjan démarré le 10 août 2018. Le quatrième pont d'Abidjan qui relie les communes de Yopougon et du plateau qui passe au-dessus de la lagune Ébrier, prévu prendre fin le 31 décembre 2023, a été visité ce jeudi 2 novembre 2023 par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour se rendre compte de l'état d'avancement global des travaux à ce jour. Écoutons le Premier ministre Robert Begrumombe au terme de sa visite.
Le chantier du quatrième pont d'Abidjan est un chantier voulu par le président de la République pour offrir aux Ivoiriens la possibilité de rejoindre leur lieu de travail et leur lieu de domicile dans les meilleures conditions de circulation. En l'état actuel des choses, quand on veut rallier Yopougon à Djamé, on a près de 112 000 véhicules jour. Donc c'est l'un des trafics les plus lourds à Abidjan. Donc le président de la République a décidé d'offrir cet ouvrage aux Ivoiriens pour que la moitié de ces 112 000 véhicules jour soient transférés sur ce pont. C'est-à-dire que là où on avait des engorgements pour aller de Yopougon à Djamé, on ne devrait plus avoir d'engorgement. C'est pourquoi nous sommes venus visiter ce chantier pour évaluer le délai au bout duquel on peut permettre aux Ivoiriens d'utiliser ce quatrième pont en attendant son inauguration. Alors, le travail que nous avons constaté révèle que du premier pont, du carrefour du premier pont jusqu'à Tekoubé, au niveau de Sebroko, cette zone pourrait être utilisable dans les jours qui viennent, sous réserve que l'entreprise respecte les indications que nous leur avons faites de terminer les embranchements, sorties et accès. On leur a donné un délai, ils le savent. La deuxième chose que nous avons demandé, c'est que la jonction du deuxième pont de Yopougon jusqu'à au premier pont de Yopougon pour aller vers le plateau soit faite le plus rapidement possible.
À l'instant, Robert Begrumombe, il était au micro de Jean-Claude Mabilla. Et puis, un atelier de réflexion sur l'industrie des véhicules de transport avec chauffeur VTC en Côte d'Ivoire s'est tenu à Abidjan. Depuis plusieurs années, les rues d'Abidjan ont vu fleurir de nouveaux types de transport avec de nouveaux acteurs et il s'agissait de faire un bilan rétrospectif et prospectif. Les détails avec Mata Touré.
L'État de Côte d'Ivoire, après concertation avec les acteurs du secteur, a introduit dans son arsenal juridique le décret numéro 2021-660 du 15 décembre 2021 portant réglementation du transport public particulier de personnes. À la pratique et dans la mise en œuvre de ce décret, il est apparu quelques dysfonctionnements et ou violations de certaines règles par certains acteurs. En vue de clarifier la règle de droit et de favoriser une saine concurrence entre les acteurs pour un transport public de personnes rentable et sûr pour les usagers, la revue de ce arsenal juridique nouvellement introduit et des dispositions réglementaires qui l'accompagnent sont-ils apparus nécessaires afin d'offrir à la Côte d'Ivoire, qui nourrit l'ambition d'une croissance économique soutenue, un système de mobilité à même d'assurer un service de transport routier performant, s'inscrivant dans une perspective de développement socio-économique durable.
Direction la ville de Mans, où le conseil municipal a tenu sa première session du présent mandat récemment à l'hôtel communal de la ville, en présence des autorités administratives et les forces vives de la commune. À ce conseil, le premier magistrat de la commune de Mans, Aboubacar Fofana, a abordé les grands axes de son deuxième mandat, celui de propulser l'élan du développement de la capitale du Tonkby. Le compte-rendu de Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkby.
Occasion pour le premier magistrat de la commune de Mans, Aboubacar Fofana, de dévoiler à cette première session les grands axes de son deuxième mandat au profit de ses administrés.
Le premier point, c'est l'autonomisation des femmes. Nos mamans qui ont un véritable besoin de soutien et d'accompagnement dans leurs différents projets et surtout dans le financement des activités génératrices de revenus. Ensuite, nous avons l'insertion socio-professionnelle des jeunes qui reste une frange importante de cette ville de Mans qui a besoin donc de soutien et d'accompagnement. Ensuite, le troisième axe, c'est de continuer à doter la ville de Mans d'infrastructures modernes, nécessaires et importantes pour continuer donc son développement et aussi son embellissement. Et le quatrième axe, en fait, c'est la solidarité envers donc les populations vulnérables, envers l'ensemble même de la population, à travers donc l'accroissement de nos recettes.
Quant au préfet des régions du Tonkpi, Mwamblignon Célestin, préfet du département de Mans, a fait cette exhortation.
Le travail qui a été fait, il est bon. J'ai noté aussi qu'un acteur particulier a été mis sur les projets de dames, c'est très bonjour. Il faut que l'application soit effective. C'est cela qui permettra à la commune de prendre réellement son envol. Par ailleurs, quand on arrive à Mans, ce qui frappe, c'est le désordre urbain. Cela doit être corrigé.
L'idée de cette offre avec cette participante.
Madame Ouba, je tenais à remercier le maire et son équipe. Je crois qu'on a 102 millions et que tout ce qu'on vient de dire se réalise.
Au dit du maire Aboubacar Fofana, plusieurs projets seront réalisés au cours de cette nouvelle mandature avec la Banque mondiale. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
À Abidjan, capitale de la santé primaire, l'espace de 3 jours, 24 pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale échangent sur les meilleures expériences dans le financement des soins de santé à partir de toutes les ressources disponibles. Tout ceci en tenant compte des défis particuliers auxquels la région est confrontée. Il est à l'initiative de l'OMS et de l'UNICEF. Les explications avec Mata Touré.
Ce forum se présente surtout comme une plateforme pour définir des actions concrètes afin d'accélérer l'amélioration des approches de financement des soins de santé primaire. Jean-François Basse est le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire.
Le renforcement et le financement des soins de santé primaire en tant que fondement de la couverture sanitaire universelle reste plus important que jamais. Ce forum, sans nul doute, y donnera écho afin d'accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle en Afrique de l'Ouest et du Centre et même au-delà.
De son côté, le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture de la maladie universelle a insisté sur l'importance de ces assises. Péangou Ndimba.
Les travaux de ces assises nous permettront de trouver des solutions durables pour le renforcement des soins de santé primaire et de la résilience de nos systèmes de santé afin d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Les soins de santé primaire constituent une priorité pour les pays en développement.
Ce forum, qui est organisé au titre de la plateforme de collaboration dénommée Harmonisation pour la santé en Afrique, fait suite à un autre similaire tenu à Kigali, au Rwanda, en mars 2023, qui réunissait 21 pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale.
Pendant ce temps, la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire sur la période d'octobre à décembre 2023, la tonne du régime de palmier à huile Borchamps s'achètera à 65 000 francs la tonne et 530 000 francs CFA au raffineur. C'est l'annonce faite le mardi 31 octobre dernier par le ministre de l'Agriculture Kobenan Kwasi Adjoumani qui a échangé avec les opérateurs de la filière afin de rapprocher les positions après le bras de fer né entre les producteurs et les raffineurs pour le respect des prix. Comment les producteurs accueillent-ils cet accord et quel engagement prennent-ils pour une accalmie dans la filière palmier à huile? Sur le sujet, écoutons Constantin Kwasi, président de la FINACOPACI, la Fédération nationale des coopératives des planteurs de palmier à huile de Côte d'Ivoire.
C'est vrai que les prix qui viennent d'être fixés ne nous arrangent pas en tant que tels.
Ils sont de combien?
65 000 francs pour les producteurs et 530 000 francs pour les usines de la première transformation. Il reste entendu que l'État va prendre des dispositions pour sécuriser les frontières et éviter que l'huile rentre de manière frauduleuse sur nos marchés pour concurrencer les raffineries. Ces prix-là sont donnés pour 3 mois, octobre, novembre, décembre. Monsieur le ministre d'État a demandé qu'on se retrouve 3 mois après pour faire le point, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour qu'il puisse y avoir des réajustements.
Alors, quelles sont les réelles difficultés rencontrées par le secteur qui font que les prix ne sont pas assez rémunérateurs pour les producteurs de palmiers?
Pour les producteurs de palmiers, c'est d'abord le fait que des prélèvements sont faits pour l'entreprise. l'entretien des pistes qui ne sont pas faites. Nous avons un produit périssable qui ne peut pas sortir si l'état des routes sont très dégradés. Et à cet aspect, mais on a voulu paraître au plus pressé, c'est-à-dire que régler le problème des prix et puis permettre aux uns aux autres de vendre à partir de février prochain, c'est la période de forte production. Donc déjà, si nous avons des différents stocks par-ci, par-là, et que des solutions ne sont pas trouvées pour régler ces problèmes-là, il va s'en dire que nous risquons d'avoir des difficultés au niveau de la pointe qui s'annonce. Donc, pour nous, chacun doit faire l'effort nécessaire et respecter l'engagement qu'il a pris devant l'État de Côte d'Ivoire.
Constantin Kouassi, président de la FENACO PACI, la Fédération nationale des coopératives des planteurs de palmiers à huile de Côte d'Ivoire, était au micro de Jean-Claude Comé. Également dans le fil de l'actualité, les meilleures élèves filles de la région du Bounkani ont été récompensées au cours d'une journée dédiée aux filles de la région de Bouna en faveur de la célébration de la Journée internationale de la fille. L'objectif des initiateurs est de contribuer à la lutte contre les grossesses en cours de la scolarité, phénomène récurrent dans la région, et sensibiliser les parents au maintien de la jeune fille à l'école. La cérémonie de remise de dons composée de kits scolaires, de diplômes d'honneur et de numéraire s'est déroulé au collège moderne de la ville de Bouna. Les échos de cette activité avec Jérôme Kouassi, notre correspondant dans le Bounkani.
Cette initiative a été portée par Kambou Erigemi Magrance, réalisatrice des films, après son constat en tant que fille de la région.
Le nombre de grossesses en milieu scolaire se multiplie chaque année et il se pose un réel problème de maintien de la jeune fille à l'école dans la région du Bounkani.
Et ce constat n'est pas faux, confirment les chiffres avec Dr Kwasi Léopold, médecin-chef du service de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes de Bouna, au cours de la conférence publique.
L'année dernière, nous avons enregistré pour le département de Bouna 53 cas de grossesse. Cette année scolaire 2023-2024 qui vient de commencer, nous avons notifié déjà 8 cas. Il y a des filles, lorsqu'elles tombent enceintes, elles fuient.
Toutes les majeures de promotion de la 6e à la classe terminale ont été honorées.
BPC régional du collège privé Christian Aurélie de Doropo, cible Assetou, elle a eu 258,10 sur 360.
Pour la porteuse du projet, la Journée internationale de la fille est un jour idéal pour s'adresser à elle, célébrer son mérite et son excellence pour la rendre plus déterminante. Kambou Eri Gemina Grasse.
Nous pensons que la célébration de la Journée internationale de la fille est un jour idéal pour rappeler aux filles de cette localité que l'école est la place idéale pour elles et qu'elles doivent changer les choses par l'excellence, le travail et la détermination à réaliser leurs rêves.
Kambou Eri Gemina compte mener de telles actions à chaque Journée internationale de la jeune fille pour ainsi contribuer à la lutte contre les vulnérabilités et à son maintien à l'école. Jérôme Kouassi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
D'une région à une autre, et nous prenons la direction d'Odienné, où les élèves non affectés de l'État en classe de 6e devraient retourner au CM2 après les congés de Toussaint. Rapporte Dosso Moussa, le coordonnateur de la direction des études, des stratégies et de la planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et ce conformément à la nouvelle réforme initiée cette année par la tutelle. L'information a été rendue publique récemment par Dosso Moussa. Ça que nous écoutons.
Depuis la rentrée de cette année 2023-2024, il nous a été rapporté qu'il serait plus possible pour les écoles privées de recruter en 6e les enfants qui n'ont pas eu l'entrée en 6e à le concours direct. Auparavant, ces enfants, on les prenait sur la base des 76,5 points. On appelait ça les 6e non affectés. Et depuis la rentrée, nous avons remarqué que ces onglets qui nous permettaient d'insérer ces enfants n'existent plus dans notre logiciel. Et une mission de la DSPS nous a appris que cette année, tous les enfants qui n'ont pas eu les 85 points, donc n'ont pas été orientés ou bien affectés à la 6e, devaient pouvoir reprendre la classe de CM2. Nous avons informé les établissements qui recrutaient déjà ces enfants qui n'ont pas eu l'entrée en 6e de 85 points, de libérer ses enfants pour qu'ils aillent reprendre la classe du CM2. Est-ce que le ministère a décidé?
C'était à l'instant Dosso Moussa, coordonnateur à la direction des études et stratégies de la planification et des statistiques. hors de nos frontières en Israël au 27e jour de sa guerre contre le Hamas, le royaume marocain ne peut qu'exprimer son regret et sa déception face à l'inaction de la communauté internationale et à l'incapacité des pays influents de mettre un terme à cette situation catastrophique, alors qu'après plus de 3 semaines d'hostilité, les civils sont toujours pris pour cible, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Il a exprimé sa grande inquiétude et sa profonde indignation face à l'aggravation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, appelant à un cessez-le-feu et à l'ouverture de couloirs humanitaire. Depuis le 7 octobre, les représailles israéliennes ont fait plus de 9000 morts dans la bande de Gaza, dont 3760 enfants, selon le Hamas, qui contrôle le territoire palestinien totalement assiégé. Et toujours dans la même veine, l'Arabie Saoudite a lancé ce jeudi une campagne de collecte de dons pour les Palestiniens de la bande de Gaza, une première occasion pour les habitants du royaume d'exprimer leur solidarité depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas. Cette initiative lancée au 27e jour de la guerre témoigne de la volonté de la monarchie du Golfe de préserver son image traditionnelle de défenseur de la cause palestinienne, tout en ménageant ses intérêts nationaux du moment et le programme de réforme porté par son ambitieux prince héritier Mohamed Ben Salman. Fin de cette édition, mais avant le rappel des titres. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a visité ce jour le chantier du 4e pont, objectif à s'assurer de l'état d'avancement de cette infrastructure routière. Et puis le maire de la commune de Mans a présidé son premier conseil municipal après sa réélection. Les axes prioritaires de sa gouvernance ont été présentés. Hors de nos frontières, le Maroc a regretté ce jeudi l'inaction de la communauté internationale face à l'aggravation de la situation humanitaire à Gaza, pilonnée sans répit par Israël. Merci de nous avoir suivis. Dans un court instant, le magazine Santé proposé par Paul-Bénédicte Bolou. Santé pour tous.